RFI Midi, Michaël Ponge.
Bonjour Marc Pierini.
Bonjour.
Ancien ambassadeur de l'Union européenne en Libye, en Turquie, en Syrie aussi. Vous êtes aujourd'hui chercheur au groupe de réflexion Carnegie Europe. Merci d'être avec nous. Nous nous arrêtons ensemble sur cet accord de cessez-le-feu signé hier en Suisse sous l'égide de l'ONU après plusieurs jours de négociations. Accord national et permanent avec effet immédiat entre les délégations militaires des acteurs du conflit libyen. D'un côté, le camp Haftar, de l'autre, celui du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli. Marc Pierini, l'ONU parle d'un tournant important pour la paix et la stabilité. C'est ainsi qu'il faut le voir, en effet, ce cessez-le-feu ?
Je dirais que c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est qu'un début. La bonne nouvelle, c'est que, évidemment, le comité militaire conjoint établi il y a quelques mois s'est mis d'accord. C'est au crédit de Stephanie Williams, diplomate américaine qui travaille pour les Nations Unies, de la diplomatie américaine aussi, qui a fait énormément de navettes avec différents acteurs. Mais évidemment, il faut maintenant passer au niveau politique, c'est-à-dire le forum de dialogue politique qui se réunira la semaine qui vient en Tunisie et qu'il faut donc préciser une série de détails, notamment sur le recensement des milices, qu'est-ce qu'une milice, qu'est-ce qui n'est pas une milice, le commandement de la force interne, intérimaire. Donc, seulement du point de vue interne à la Libye, la bonne chose, c'est que c'est un accord entre Libyens, qui n'est pas imposé par l'extérieur. Mais évidemment, la difficulté, c'est qu'en presque 10 ans de guerre civile, il y a une myriade de groupes armés, etc. Il faut mettre de l'ordre là-dedans. Rien que ça, ce sera difficile.
Et voilà,
l'application internationale.
Un point essentiel donc de cet accord, vous nous l'expliquez, le retrait des mercenaires étrangers dans les 90 jours, le retrait des forces militaires, notamment à l'ouest et l'est des villes de Sirte et Al-Joufra. Si vous me passez l'expression, ça, c'est véritablement un sacré morceau qui attend les différents acteurs.
En effet, il y a plusieurs milliers de mercenaires étrangers, importés essentiellement de Syrie par la Russie et par la Turquie, donc, qui se font face, qui sont venus là essentiellement parce que c'était pratique pour la Russie et la Turquie de les évacuer de la province d'Idlib et parce que ces gens veulent gagner leur vie, si je puis dire. On voit ça aussi dans le Caucase d'ailleurs en ce moment. Il faut les faire partir. C'est une noria logistique extrêmement complexe, et il faut bien sûr que la Turquie et la Russie coopèrent. Donc ça, c'est une affaire qui va très vite
arriver
au niveau du Conseil de sécurité.
Et le président Erdogan hier a dit douter de la crédibilité de ce cessez-le-feu. Comment faut-il apprécier une telle déclaration ?
Alors, là, c'est la dimension internationale de ce cessez-le-feu. Il est bien évident que, d'abord, l'accord actuel implique le départ des formateurs, donc des troupes étrangères, ce qui veut essentiellement dire les Russes et surtout les Turcs, qui sont très nombreux dans l'ouest de la Syrie sur une base militaire. Bien. Donc, dans la stratégie actuelle de la Turquie, qui est une stratégie de disruption permanente au plan international, c'est évidemment pas une bonne nouvelle. Mais en plus de tout ça, cet accord de cessez-le-feu et la perspective d'un gouvernement national libyen remet en cause l'accord entre la Turquie et le gouvernement de Tripoli sur les frontières maritimes, qui est la base pour la Turquie de procéder à des explorations et des forages en Méditerranée orientale.
La Turquie qui cherche à étendre en plus en ce moment sa sphère d'influence sur l'espace méditerranéen.
Bien sûr, bien sûr. Mais on peut dire aussi la même chose, dans une certaine mesure et selon des méthodes différentes, de la Russie. La Russie poursuit une stratégie de présence en Méditerranée. Elle a bien sûr établi une base aérienne considérable en Syrie. Elle a des moyens militaires aériens en Libye. Elle poursuit aussi une stratégie énergétique. Elle la poursuit au Liban, offshore. Elle la poursuit en Égypte, offshore. Et bien sûr, elle est intéressée par le gaz libyen. Donc, il y a, si vous voulez, une multitude d'implications de cet accord. C'est donc une bonne nouvelle parce que des Libyens, entre Libyens, se sont mis d'accord. Personne ne les a forcés. Le médiateur, c'était les Nations Unies. Mais au plan extérieur, évidemment, la Turquie, la Russie, dans une certaine mesure l'Égypte, sont sur une position un peu difficile aujourd'hui.
D'où une dernière question très rapidement, Marc Pierini. Est-ce qu'il y a besoin, selon vous, d'une traduction juridique contraignante pour que cet accord de cessez-le-feu ne soit pas violé ?
Ah, bien sûr. Il y a d'abord la traduction opérationnelle sur le terrain libyen, la formation de cette force militaire limitée par les deux parties et la neutralisation de toutes les autres forces. Et il y a ensuite le fait que cet accord doit arriver très vite au niveau de cet accord et l'accord futur de cette semaine, on l'espère, en Tunisie, sur le plan politique, doit arriver très vite au niveau du Conseil de sécurité pour qu'il y ait une sorte de garantie internationale que cet accord a la bénédiction du Conseil de sécurité.
Marc Pierini, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RFI Midi, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Libye.